What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No, wounded,
sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si faccia dire? Papa faccia dire?
Bonjour à toutes et à tous les cinéphiles du vendredi, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche, avec, alors là je vais le dire, avec amour et subtilité, il y aura beaucoup d'amour dans cette émission, liée au film, puisque à l'affiche aujourd'hui des films glaçants. Pouvoir, domination, manipulation, grâce aux mages du Kremlin dont on va parler, à Gourou et à Nuremberg, on va bien prendre un petit shoot de vodka pour faire passer tout ça, ou alors plutôt non, un petit shoot d'humanité avec Sophie Loridon, réalisatrice de Quand j'étais petite, qui nous parle dans quelques secondes de son dernier film en tournée et en avant-première, juste le temps d'abord de présenter mes compagnons d'émission. Salut Olivier.
Bonjour Sophie, bonjour tout le monde.
Et Alexis, bonjour Alexis.
Et bonjour à tous, et j'aurais dit amour glacé pour le coup, dans cette émission.
Oui, voilà. Amour glacé. Ça a quel goût, tiens, l'amour glacé?
Ça, bon. On approche de la Saint-Valentin, peut-être qu'on le saura.
Ah, oula. Salut Sylvain.
Salut.
Et bonjour Sophie.
Sophie bonjour Loridon. Sophie.
Merci d'être là avec
Merci
nous.
À vous.
Alors, Sophie Loridon, tu avais fait Lucie, après moi, le déluge, ça c'était en 2019, qui avait beaucoup plu et avec lequel tu avais tourné, me semble-t-il, en Ardèche.
Oui, et
là, tu présentes dans 4 ciné ce week-end, enfin, à partir de ce soir, à Privas à 18h30, en avant-première. Le nouveau documentaire, donc Quand j'étais petite, qui sort officiellement au cinéma le 29 avril. Pourquoi et comment est né ce projet au long cours?
Alors, merci déjà de me recevoir dans votre émission. En fait, ce projet il est né du fait que j'avais envie d'emmener les enfants vers leurs aînés dans mon village, là où j'habitais avant, en Isère. Et j'avais vraiment envie qu'ils découvrent leur histoire de vie parce que aujourd'hui il n'y a rien qui permet de faire des ponts. Enfin, ça commence à se faire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de ponts entre les personnes âgées et les enfants. Et j'avais vraiment envie d'emmener les enfants vers eux pour qu'ils découvrent tous ces trésors et d'histoire de vie. Et puis parce que je trouve que nos aînés, ils sont très réconfortants et il y a un certain recul sur la vie, un détachement qui, moi, me fait du bien et j'avais envie de transmettre ça aux enfants. Donc, la base du film, c'est vraiment une envie de rencontre. Et puis, ça s'est fait sur 10 ans. J'ai glané les histoires avec les enfants. Et puis, j'ai vraiment développé le projet il y a quelques années. Et là, j'en ai fait un film documentaire parce que c'était tellement beau ce qui en ressortait que j'avais vraiment envie d'en tirer la quintessence et d'en faire un film pour le cinéma.
On va écouter quelques secondes de la bande-annonce.
Vous avez une liste de choses à faire avant.
Avant quoi?
De mourir.
Hein? Ouais, tu pourrais commencer au commencement quand même.
Comment vos parents vous ont-ils éduqué?
Et tu vois, très mal. Très mal.
Vous avez le droit de parler à table?
Oui.
Non, il n'y a pas de discussion à table. C'était manger, un quoi c'est tout.
Elle marchait droit à l'époque.
Vous partiez en vacances à la mer?
Non. À la mer, c'était dans les champs, la mer. On allait travailler.
Mais, il n'y
avait pas de vacances, nous.
Ouais, on l'entend et on sourit. Enfin, ouais, ça sourit autour de... Il sourit, ça.
Si je peux me permettre, j'ai évidemment vu la bande-annonce et c'est immédiatement touchant. Enfin, c'est vraiment fort, hein, cette transmission et cette relation des enfants avec les aînés, vraiment.
Ouais, c'est vrai que c'est très touchant parce que c'est sincère. Et je trouve que le fait d'avoir fait interviewer les enfants... ça change la donne parce que quand on parle à des enfants, on ne parle pas de la même manière qu'à des adultes, je trouve.
Ah oui, ouais. Et les questions, comment c'est les enfants, enfin, vous avez travaillé les questions en amont?
Oui, ou oui, en fait, à chaque fois, je faisais un stage avec eux, donc c'est un gros projet, en fait. À chaque fois, on passait quelques jours avec eux. Et mon équipe, on les a sensibilisés à toutes ces questions, à la vie d'avant, au XXe siècle, et puis aussi, on les a sensibilisés à la vieillesse, à leur ressenti. Et on les a vraiment responsabilisés dans le tournage, donc on les voit filmer dans le film. Enfin, c'est vraiment un travail avec les enfants.
Mmh. Ouais, de longue haleine, tu me disais 10 ans.
Et ça oui, montre... mais ce n'est pas les mêmes enfants, mais il y en a qui ont 17 ans aujourd'hui et ils sont hyper contents d'être dans le film. Ils réalisent à quel point ces témoignages sont précieux parce que ça a tellement changé.
Et ça montre, s'il en était besoin, à quel point le travail, le fait de prendre le temps et d'établir du lien, ça sert finalement le projet final et le film réalisé à la fin, quoi, finalement.
Oui,
on obtiendrait, je pense, pas du tout la même intensité en étant plus superficiel, quoi.
C'est ça, c'est que, enfin moi je crois vraiment, j'adore les films qui sont tournés sur plusieurs années. Je trouve que ça donne de l'épaisseur au film et même si les personnes en fait on les a rencontrées sur quelques jours, et ben c'est ce projet en lui-même qui est vraiment contenu sur plusieurs années et qui a été mûri en fait. Alors c'est vrai que ça doit se ressentir, je pense.
Il y a des questions, des attitudes ou des réponses même qui t'ont surprise particulièrement?
Oui, parce qu'il y a par exemple là, ce qui me vient, c'est comment on était traité à l'école. Et on a une qui dit, vous aviez un bonnet d'âne. Et elle dit, oh non, on n'avait pas un bonnet d'âne. Mais une fois quand même, il y en a un qui m'a cassé sur l'ardoise sur la tête et j'ai saigné. Et là... on se dit, mais non, j'avais pas un bonnet d'âne, mais enfin bon, elle s'est quand même cassé l'ardoise sur la tête. Et ce qui m'étonne le plus, c'est la résilience et le fait que avec les années, enfin, tout paraît presque insignifiant finalement, même si certaines personnes sont quand même très marquées par la guerre, hein, mais il y a une prise de recul, quoi.
Oui, parce qu'en tout cas, dans la bande-annonce, on voit, il y a des images très, très poignantes d'une... d'une femme.
Thérèse, c'est une femme qui est née d'un père algérien et d'une mère italienne, qui a perdu sa mère très tôt et qui a été à l'orphelinat. Et elle, à l'orphelinat, elle faisait les enterrements. Et donc, elle a fait les enterrements d'une famille en Isère qui avait... enfin, c'était des jeunes qui avaient fait un attentat contre des gens qui aidaient la milice. Enfin, c'était toute une histoire. Et elle, en tant qu'orpheline, elle a été près des Allemands comme ça. Elle avait peur. Et ce qu'elle raconte dans le film, c'est très beau. On peut voir la bande-annonce sur le site quandjétaispetit.fr. Et c'est vrai que voilà, je suis contente de pouvoir partager ça avec le public en tout cas.
Donc dès ce soir, je le rappelle, on pourra voir le film et puis discuter aussi avec toi.
Oui,
discuter avec une réalisatrice ici tout près de chez nous, donc c'est ce soir à 18h30 au Vivarais à Privas, demain à 16h au foyer à Rosières, puis à 20h15 à l'espace Vivant Sauvance, et vous terminez la tournée au Ciné 7 à Rue 11 à 14h voilà. Dimanche.
Et puis ensuite, il va passer à Valence, courant avril. Il va passer aussi certainement à... Je vais essayer de le passer à Montélimar, Aubenas, enfin Tournon. Il va passer à Tournon aussi. Voilà, et Lucie, après moi le déluge, je passe samedi à Rue 11 aussi.
Ok.
En projection exceptionnelle, donc voilà.
Super.
Et ben, je suis ravie de revenir en Ardèche.
Si je puis me permettre, donc moi je suis chroniqueur ici dans l'émission et je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous dire merci parce que ça fait quelques années que je réfléchis à la situation des enfants et des vieux justement dans la société libérale et consumériste.
Et bienvenue,
la vieillesse. Et donc un tel documentaire est vraiment très précieux pour éveiller à toutes ces questions, vraiment.
Ben merci, ça me touche énormément parce que enfin c'est un film qui, bon, la distribution c'est de l'autofinancement, on donne tout parce qu'on y croit en fait, et les retours du public c'est un peu ça aussi, c'est merci parce que c'est précieux, je trouve, ben, le lien qu'on peut avoir entre nous déjà.
Ouais.
Et c'est précieux de transmettre et de pas vivre trop séparés, quoi. Voilà.
Exactement. Mm-hmm.
Si je peux me permettre, ça pourrait être presque un film fait tous les 10 ans, en fait, parce que l'évolution des personnes âgées, elle est importante, et puis il y a des nouveaux aînés à chaque fois. Donc ça pourrait être intéressant de faire une suite.
Puis en fait, j'ai déjà la suite, parce que je vais faire un épisode spécial guerre, spécial femme aussi. Quand j'étais petite, ma maman, ou comment les filles étaient considérées dans la famille. Mais bon, je cherche des financements. C'est pas évident de s'autoproduire. Mais en fait, dans le film, il y a des gens qui sont nés en 1922 et d'autres en 1960. Ce qui fait que, en fait, on n'a pas du tout, j'ai déjà les mêmes témoignages entre les gens qui ont 100 ans et les gens qui ont 70 ans. Enfin, en tout cas, c'est pas la même vie. Déjà, il y a déjà une grosse différence selon l'époque à laquelle on est né, dans laquelle on est né. Donc voilà.
Bravo.
Ouais, bravo.
Merci beaucoup. En tout cas d'avoir laissé une place là pour le film dans votre émission. C'est gentil, merci.
Ouais, merci. On invite tout le monde. Donc j'aurais dit ce soir à 18h30 au Vivarea Priva, demain à 16h au foyer à Rosières, puis à l'espace Vivance à 20h15 au Vence, et puis dimanche avec la projection en amont de Lucie après moi le déluge, puis donc quand j'étais petite c'est à 14h, je sais pas dans quel sens ça va. Allez sur le site de Ciné 7.
Comme vous voulez.
Merci Sophie.
Sans Mont-sur-Lignon pour ceux qui sont en haut de l'Ardèche. Voilà, merci en tout cas.
À bientôt.
À bientôt. Bonne journée.
Merci. Ah voilà, ça nous a mis un peu de...
Ah, ça fait du bien.
Ouais.
Par rapport à ce qu'on a traité maintenant.
Eh bien, allons-y. On commence avec le match du Kremlin.
What matters in Russia is your proximity to power. Vadim Baranov was a visionary director. He became known as the new Rasputin.
I want to be part of my time, not just a witness.
Stop making up stories. Start creating reality. We need to invent something new. Russia needs a different brand of politician.
He's young. Athletic. He's a spy. KGB. Vladimir Putin. What interests me is power.
I cannot be subservient to anyone.
Our goal is chaos. We'll get into people's heads.
We'll build the myth that the Russians are controlling the modern world. We are its masters.
C'est tendu, cette musique, et c'est long, et c'est en anglais, le mage du Kremlin.
Oui, c'est encore plus bizarre.
Film d'Olivier Assayas, scénario par Emmanuel Carrère également, avec Paul Dano, Jude Law, Vladimir Putin. Voilà. Alicia Weaving-Kander.
Ouais.
Alors, c'est à toi la parole, Olivier.
Oui.
Ça va saigner.
Oui. Le au départ, était un roman de Giuliano d'Ampoli, que nous connaissons pour son expertise en droit et en sciences politiques. Il est professeur à Sciences Po et il nous vient de Milan où il a étudié le droit et enseigné d'ailleurs aussi le droit. Et il s'est fendu d'un roman, Le Mage. Du Kremlin.
Et conseiller, et c'est un conseiller
il
politique.
Il a été conseiller politique de Matteo Renzi, affaire dont il s'est entièrement retiré, clairement. Voilà, mais ça lui fait effectivement une expérience. Et alors quand on entend Giuliano d'Ampoli à la radio, par exemple, il a été l'invité assez souvent France Inter, du Grand Face à Face ou d'autres émissions, c'est toujours un bonheur de l'entendre parler parce que c'est mesuré, c'est expert, il y a de l'humour, enfin c'est un monsieur vraiment très très intéressant. Et il s'est fendu d'un roman. Donc, Le Mage du Kremlin, je le disais, le titre sera repris pour le film. Un roman qui a obtenu le grand prix du roman de l'Académie française en 2022, et ainsi que le prix Honoré de Balzac. Alors, il y a plusieurs prix Honoré de Balzac, faut pas se tromper. Là, c'est un prix qui existe depuis 1999, donc il a obtenu, je crois, en 23. d'Empoli. Et c'est un prix qui vise à récompenser, évidemment, comme son nom l'indique, les œuvres qui s'inspirent de près ou de loin de l'œuvre de Balzac et singulièrement de la comédie humaine, ça va de soi. Or, dans ce rôle-là, Giuliano d'Empoli fait le job ô combien, c'est-à-dire que le roman se lit, tu l'as lu, je crois.
Oui, oui, hein, oui.
Donc le roman se lit comme un roman, puisque c'en est un.
Ouais, c'est passionnant.
Voilà, et c'est lui qui a, voilà, c'est vraiment passionnant. Je le conseille, ça se lit dans la journée, voilà, c'est merveilleux.
Enfin, c'est merveilleux, je ne sais pas si c'est le terme exact.
Non, c'est pas le terme exact. Non, c'est merveilleux du point de vue de l'écriture d'un roman. Hein, du point de vue du genre, c'est vraiment merveilleux. Et effectivement, ça peut faire penser à Balzac modernisé, quoi. Giuliano d'Empoli a envoyé son roman à Olivier Assayas pour qu'il en fasse un film. Bon. Et on pouvait s'attendre, vu le cinéma d'Assayas, à ce qu'il fasse un film honnête. Ayant le même, finalement, rôle que le roman d'Empoli dans la littérature. Voilà. Mais Assayas, peut-être à la recherche d'une légitimité qu'il n'estimait pas avoir lui-même, a été chercher Emmanuel Carrère. Et alors là, ça change tout. Parce qu'Emmanuel Carrère a la prétention, en tous les cas, il a la volonté, et je crois la prétention de comprendre tout. À commencer par sa propre vie, donc il nous embête avec Kolkhoz, là, où il nous raconte l'histoire de sa famille sur 4 générations, enfin, comme si ça nous intéressait. Et il fait la même chose au niveau de l'histoire internationale, d'une certaine manière. Il voudrait tout comprendre. Mais en plus, je crois qu'il est persuadé qu'il a compris. Et donc, il se jette sur les événements historiques russes depuis la chute du bloc soviétique et la présidence de Boris Eltsine jusqu'à l'imminence de l'invasion de la Crimée, pratiquement. Enfin, on est dans ce champ-là. Et Carrère nous paraît montrer qu'il a tout compris. Alors, dans la compréhension des événements historiques, il y a en gros deux possibilités. Soit on considère les événements historiques comme l'enchaînement logique de causes universelles, générales, d'ordre économique, social, politique, etc. Et à ce moment-là, c'est un objet pour un cours de sciences politiques. Mmh. Ou alors on pense que les événements historiques, ils sont déterminés par la psychologie des individus, des ambitions personnelles, etc. Et à ce moment-là, on a une histoire complètement différente, de type People, une histoire qui risque toujours d'être un petit peu l'histoire d'Alain Decaux pour les vieilles générations ou de Stéphane Bern pour les contemporaines. Voilà. Il est évident que ces points de vue sur l'histoire sont légitimes. Ce qui l'est moins, c'est de penser que l'un ou l'autre sont effectivement les causes déterminantes des événements historiques. Les causes déterminantes des événements historiques, personne ne les connaît, puisque pour les connaître, il faudrait pouvoir sortir de l'histoire et regarder de l'extérieur ce qui se passe pour le comprendre. Et je crois que Emmanuel Carrère a la prétention de dire que les deux aspects sont déterminants, et il nous sert un film, qu'il a visiblement piloté en même temps qu'Assayas, il nous sert un film où on a d'une part une espèce de cours sur le capitalisme débridé de la chute du mur, le totalitarisme soviétique qui subsiste chez Poutine. Donc on a, alors ça donne quoi filmiquement? Ça donne des dialogues très longs, très didactiques, qui sont pratiquement des tunnels dans la narration, et puis qui sont évidemment toujours insatisfaisants pour quelqu'un qui connaît les faits, évidemment. Et puis, alterne avec ces longueurs didactiques des moments, alors qui sont les moments people, où on prétend serrer de près la figure de Poutine. Alors là, cinématographiquement, vraiment, avec évidemment Jude Law qui a pour mission d'incarner Poutine. Mmh. Bon, alors le problème, c'est que là, on n'est plus du tout dans l'explication historique, on est effectivement dans le people, dans l'affectif, etc. Et ça marche pas très bien parce que Poutine reste quand même une énigme, fondamentalement.
Et que devient le personnage de Baranov ? Parce que finalement, le
personnage de Baranov,
c'est un peu le fil conducteur pour amener...
voilà, on en parlera peut-être avec Nuremberg, mais le personnage de Baranov...
Pour que les auditeurs comprennent.
Donc, c'est un génie, un petit génie de la communication qui a commencé dans la télévision et qui sert à Poutine dès le début, dès qu'il devient président de la Fédération russe, il lui sert à former son image. Russie unie, c'est lui, etc. Et donc, ce personnage sert à Assayas à, comment dirais-je, à justifier le fait d'avoir un point de vue très général explicatif et un point de vue très personnel, puisque ce conseiller était vraiment dans le premier cercle autour de Poutine.
Oui, oui, voilà. Seul son nom a bougé, mais en fait, ce conseiller a réellement existé.
Mais dans le film, la fin ne correspond ni au roman, ni à la réalité. Et alors, le problème de Carrère, c'est qu'il veut vraiment nous faire croire qu'il a compris. Du coup, dans le film, on mélange des images de fiction avec des images d'archives, et Carrère pousse quand même le délire, parce que je crois que là, on en est là, jusqu'à être dans un caméo dans le film. C'est-à-dire, on voit Emmanuel Carrère dans le film, qui s'entretient avec des militants de la Fédération de Russie. Donc, on est dans la confusion totale. Et bon, je pense que les gens qui m'ont déjà entendu ici savent que je déteste par-dessus tout le mélange de la fiction et de la réalité. Et effectivement, là, on est dans la confusion totale. Si bien que Emmanuel Carrère, qui l'avait déjà fait pour le royaume, à propos de l'histoire de Saint Paul et de l'évangéliste Luc.
Donc, mais pas en tant que scénariste, mais en tant que romancier.
En tant que romancier, il cultive la confusion mentale. Et d'ailleurs, il est fasciné par ça, parce que c'est comme ça qu'il a étudié le cas de ce type qui mentait sur
Jean-Claude Roman.
Sur Jean-Claude Roman. Il est visiblement fasciné par l'illusion. Il est fasciné et c'est toujours désagréable d'être, d'une certaine manière, pris en otage par les fascinations des gens de la culture, quoi. Et je crois que ceux qui entendent Emmanuel Carrère intervenir dans les médias voient assez rapidement et sont en général assez rapidement agacés par cette espèce d'empreinte qu'il veut laisser, quoi.
Bon, ceux qui ont encore envie, malgré tout ça, d'aller voir le film, Le Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, est à voir donc à Aubenas, rue 11 et Privas, et la semaine prochaine il sera au Teil, à Valls et au Vence. On continue, tu parlais de manipulation mentale, d'illusion.
Merci les amis.
Ce que tu veux,
c'est ce que tu es.
Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français.
Je vais vous donner les bons outils pour réussir.
Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît ?
Je suis fière de toi.
Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins.
Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Hassel.
Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires ?
On ne va pas demander un diplôme d'État à chaque coach.
Pourquoi pas ?
On va tous être au chômage.
Voilà, c'est plus clair, ça.
Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours.
T'es pas non plus sur le mont des Oliviers après chez la Fraternité Universelle, non?
Je peux pas les laisser tout me prendre.
Tous avec moi. Libérez-vous. Libérez-vous, arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes. Et hurlons. Hurlons ensemble.
Positivité toxique. Vous connaissez cette notion ?
Un show à l'américaine, Gourou de Yann Gozlan. Avec Pierre Ninet, Marion Barbeau, Anthony Bajon, bonne performance. Le scénario est aussi de Jean-Baptiste Delafont, qui est le scénariste de Baron Noir, notamment. Et donc, voilà, qui s'y connaît un petit peu dans la prise de pouvoir. Alexis, tu es allé voir Gourou.
Ouais, alors Gourou, que je dis un petit peu ce que c'est au départ, hein, c'est, on suit un coach personnel qui s'appelle... hop, j'ai perdu son prénom déjà.
Mathieu
Vasseur, voilà. Qui, alors, pour ceux qui auraient vu les films de Yann Gosselin, s'appelle déjà Mathieu Vasseur dans ses précédents films. Donc, c'est un petit clin d'œil aux personnages qui ont été faits avant dans les précédents films. Donc, peut-être le multivers de Yann Gosselin, peut-être.
Ouais. Boîte noire.
Boîte noire, voilà. Et donc, en fait, on suit donc, ce coach personnel qui va...
ce coach personnel, ce coach en développement personnel, mais en fait, il fait du coach voilà. Pour les groupes.
Pas vraiment exactement personnel. Voilà, il réalise des séminaires de haute importance, donc on va dire que c'est le gourou moderne, comme on l'appelle, avec un public assez fragile qui généralement est dans des situations de faiblesse où des gens sont perdus dans leur vie professionnelle, personnelle, etc. Et donc lui va profiter de ces interventions là pour soi-disant les aider et ensuite va se passer tout le long du film un processus qui va peut-être se retourner contre lui. Voilà.
Parce qu'on a déjà entendu un petit peu là dans la bande-annonce l'élément un peu déclencheur, c'est que il y a une commission sénatoriale qui les entend pour savoir si il faudrait pas justement réglementer un petit peu cette profession de coach. Et donc là, ça met en péril et donc
exactement. Et le film justement parle de ça. Alors ça a été une idée à la base originale de Pierre Ninet, qui a fait avec le réalisateur des séminaires qui se sont concentrés sur le sujet et qui ont remarqué l'ascension de ces coachs personnels qui justement sans loi, sans rien en fait, se proclament entre guillemets médecins personnels, presque psychologues en fait de masse pour des personnes en souffrance. Et pose la question de, à l'heure d'aujourd'hui, avec les influenceurs, les youtubeurs et tout le reste qui va se passer sur les réseaux sociaux, permet en fait à ces personnes-là de pouvoir monter en puissance et d'acquérir de plus en plus de personnes et de faire payer ces gens en plus de ça, payer ces gens avec des prêts parfois de consommation, etc., dans ces idées-là pour aller mieux, alors que parfois les conséquences sont dramatiques. Voilà, c'est pas forcément, on va pas forcément mieux après. C'est une idéologie d'une personne qui n'est pas agréée en plus. Et pose la question de... la première question à laquelle je me suis posé, c'est est-ce que nous, en tant que personnes, à partir du moment où on a une souffrance, quels moyens on a pour se faire aider à l'heure d'aujourd'hui ? Parce que c'est souvent des gens qui ne savent pas vers qui se diriger. Et donc, la question est, est-ce que aussi en France aujourd'hui, est-ce qu'au niveau de la santé mentale ou autre, est-ce qu'on est bien dirigé aussi ? Voilà, cette question-là peut se poser.
Toi, c'est des questions de contenu. Donc, le film, alors, t'as quand même permis ça.
Le film a permis ça. Alors, moi, je trouve que le film, au niveau de son... De sa réalisation. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas vu en salle. J'aurais aimé pouvoir le voir en salle, tout simplement parce que, pour les retours que j'ai eus, le film est filmé en sorte qu'on se trouve dans ces séminaires-là, en fait. Donc, en tant que spectateur, on a l'impression d'être pris par ce gourou qui est Pierre Ninet, qui joue absolument merveilleusement bien et qui va nous permettre en fait permettre d'y croire à son sujet et de se faire un petit peu manipuler. Et c'est de toute façon, c'est tout le long du film, hein. Moi j'appelle ça le Inception de la manipulation. Vous verrez, c'est que des poupées russes qui se manipulent en fait. C'est vraiment un manipulateur est aussi manipulé par quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est le jeu de la marionnette en fait au fur et à mesure, et c'est hyper intéressant. Moi, j'ai un petit bémol quand même, c'est l'actrice qui accompagne Pierre Ninet. Alors, j'ai plus son nom. Moi, j'ai trouvé...
Marion Barbeau.
Exactement. Moi, elle m'a sorti du film complètement. J'ai trouvé qu'elle était très, très mal dirigée, qu'elle était quelqu'un de très, très froid. J'ai pas réussi à rentrer dans son personnage. Elle m'a presque énervé. Je pense que le personnage, justement, de Pierre Ninet, le gourou, il est là pour nous énerver et passer il est censé nous énerver tout le long du film, et elle, moi, m'a beaucoup plus énervé dans son jeu et m'a beaucoup plus outré que Pierre Ninet en soi.
Voilà. Oui, parce que finalement c'est assez Le personnage de Pierre Niney, il n'est pas monolithique, en fait. On voit justement lui-même concède que oui, une loi, il y a un peu de tout, il y a à boire et à manger dans ses coachs personnels, il concède beaucoup de choses. Donc c'est ce qui, a priori, le rend modéré, a priori, et sympathique. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de le suivre. Et après, on est effectivement dans la confusion.
Et je pense que c'est vraiment ce film-là est une expérience également, parce que en salle, je pense qu'on est, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Le film a un rythme très très prenant en règle générale. Enfin, moi, c'est mon avis, et je pense qu'on est jamais, on nous laisse jamais de repos. En règle générale, on est vraiment toujours hypé par ce gourou-là. Alors, on a des temps de pause pour expliquer bien la situation, mais c'est quand même, on revient quand même souvent au séminaire, etc., avec le public de masse, où on voit son discours, et on est sur une espèce de cadence qui est quand même très rythmée. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, malgré voilà.
Tes petites nuances à apporter. Pour ma part, je ne sais pas très bien où le film nous amène. Bon, ça c'est, je ne sais pas ce qu'il veut de ce que
la voilà, finalité, son message n'est pas clair.
Non. Mais bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a des scènes d'énergie. Je pense qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus, effectivement, pour avec la salle, avec les 400 comédiens, comment on dit, qui sont là, voilà, pour la scène. Ils ont vraiment travaillé ces scènes d'énergie pour que ce soit un peu viral. Gourou de Yann Gosselin avec Pierre Niney, c'est à voir à Aubenas Rouen, c'est privat, et à partir du 12 février, il sera au Vence. Mais on se dépêche, Nuremberg.
Monsieur le juge Jackson, ils ont capturé Hermann Göring, vivant.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet homme ?
Cet hôtel a été transformé en prison militaire secrète. Elle abrite actuellement ce qu'il reste du haut commandement nazi. Hey,
ne refaites plus jamais ça dans ma prison.
Les gouvernements sont en train de décider si oui ou non ils vont juger ces hommes pour des crimes passibles de la peine de mort. Le commandement central vous considère comme un as de décryptage de cerveau. Vous avez été amené ici pour évaluer et être garant de la santé mentale des prisonniers.
Il est officiellement le plus haut gradé de tous les temps.
Il est extrêmement intelligent.
Charmeur.
Et narcissique.
Je vais me faire disparaître avant que le bourreau m'exécute.
Je vous trouve très sûr de vous.
Oui. Nuremberg de James Vanderbilt avec Russell Crowe, c'est Göring, Rami Malek et Richard E. Grant. Vous l'avez vu tous les deux, veut commencer ?
Je t'en prie, Olivier.
Il n'aura échappé à personne qu'on se trouve devant un film qui est tout à fait comparable au Mage du Kremlin, dans le rôle de Poutine Göring, dans le rôle du conseiller en communication, le psychiatre. Enfin, il y a beaucoup de points communs. Donc, je rappelle les événements. Nous sommes au moment de l'arrivée de l'armée américaine dans toute l'Europe occidentale, après le débarquement en Normandie, et on est au moment où les armées américaines aussi libèrent quelques camps de concentration et d'extermination. Eisenhower, qui était directeur des opérations en Europe, futur président des États-Unis, a vu les camps, et quand il en est sorti, il a dit « nos boys, maintenant, ils savent pourquoi ils se battent ». Donc voilà, on est à ce moment-là de l'histoire, et on est en fait un tout petit peu après, c'est-à-dire au moment où effectivement on arrive à choper un certain nombre d'élites, de dignitaires du régime, et en particulier le numéro 2, le successeur présumé d'Hitler, dès 1939. C'est Göring qui était chargé de remplacer Hitler en cas de besoin. Donc on est vraiment au sommet. C'est la première question. Êtes-vous sûr qu'Hitler est mort ? Oui. Donc c'est vous maintenant. Voilà. Et on est dans la même problématique que tout à l'heure. On a un événement historique de dimension mondiale, une guerre mondiale, la destruction des Juifs d'Europe, la guerre du Pacifique, Hiroshima. Voilà, on est dans cette phase-là. Et à côté d'explications générales, on a effectivement la matière même de l'histoire, c'est-à-dire les gens qui l'ont faite. Et ici, bien sûr, Göring. Et on a une petite fenêtre exceptionnelle qui s'ouvre. C'est le psychiatre qui est chargé de repérer des envies de suicide ou de disparition chez les prisonniers, qui est chargé d'évaluer leur santé mentale, Et donc, il va publier, d'ailleurs, après sa mission, Douglas Kelley, il va publier 22 cellules à Nuremberg, où il explique, effectivement, il explique quoi ? Bah, il explique que, et c'est ça qui a fait un peu le buzz à l'époque, il explique que ces hommes-là sont comme nous. Un peu plus narcissiques, parfois un peu plus intelligents, mais aussi humains, voilà, ils sont comme nous. Et cette idée donc qui s'apparente à l'idée d'Anna Arendt sur la banalité du mal, voilà, elle est reprise par un historien, Jacques L. Haye, qui écrit donc le nazi et le psychiatre. Et c'est sur ce travail d'historien qu'est basé le film. Alors, j'essaye de faire effectivement short, ouais. Ce film est beaucoup plus satisfaisant que Le Mage du Kremlin parce que justement, on y prend pas position, mais on y voit que les enjeux universels sur, par exemple, la Cour des droits de l'homme qui va se mettre en place progressivement et les enjeux subjectifs, c'est-à-dire la charpente, le squelette moral de chacun de nous, ces deux choses sont en rapport, finalement. Et qu'on ne pourra pas mettre en place une Cour internationale des droits de l'homme si on n'interroge pas la faculté de chaque individu à faire le ménage au plus profond de lui-même sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Et le film montre ça, ne prend pas parti, mais nous montre ça. C'est-à-dire nous montre que nos aspirations à une justice internationale est inséparable d'un travail spirituel sur soi.
Alexis. Je vais faire très court, mais sous ce film bien léché américain, oui, quand même, voilà, oui. On peut le dire, moi j'ai été quand même agréablement surpris. On regarde le mal droit dans les yeux.
Oui.
Et on nous montre aussi que le mal peut se cacher sous des identités, comme tu disais, très, entre guillemets, anodines, humaines, qui peuvent être sympas. Également, très sympa. Très
ouais.
sympa.
Et digne d'admiration, même. Exactement. C'est ça qui est terrible.
Exact. Ouais. Et c'est ça qui pose question, c'est que c'est terrible, le message est terrible. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était. On se laisse prendre au jeu du début jusqu'à la fin.
Et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur l'effet poupée russe marionnette de l'influence. Et là, on voit que Göring, jusqu'au bout, reste sous l'influence d'Hitler. C'est quand même c'est quelque chose d'assez fascinant. Ouais.
Nuremberg, donc c'est à voir à Aubenas et à partir du 19 février, il sera au Vence. Merci à tous. Juste un mot, n'oubliez pas, c'est le festival Un livre, un film à partir de ce soir à 20h avec La femme de ménage. Demain, il y aura Dalloway, First Ciné Libre. Et puis dimanche, il y aura Jack et Nancy, Les plus belles histoires de Quentin Blake, La condition de Jérôme Bonnel. Et puis Lumière pâle sur les collines. Donc à chaque fois, un roman, un film, un livre, comme son nom l'indique.
Dalloway, pour les amateurs de Virginia Woolf, c'est vraiment intéressant.
Dalloway, donc précédent film de Yann Gosselin, dont nous avons parlé avec Gourou. C'est à la salle de la Vesprade à Tueil. Merci beaucoup à tous les trois. Avec Sylvain, merci pour la réalisation. Et on se retrouve vendredi prochain. Ciao.